Bonjour à chacun d'entre vous. Il y a quelques dimanches, j'avais commencé une série de messages sur ce qui définit ou ce qui caractérise les églises de type évangélique. Alors vous vous souvenez, il y avait quatre points qu'un sociologue anglais, du nom bien anglais de Babington, ça ressemble un petit peu à Babington, mais c'est pas ça tout à fait. Et il avait, lui, vu qu'il y avait quatre caractéristiques qui pouvaient définir ce que nous sommes en tant qu'Église évangélique. Alors, je le rappelle juste très très rapidement, et tout à l'heure, nous verrons le dernier de ces quatre points. Le premier, c'était la conversion. Les églises évangéliques insistent sur la conversion comme moment dans notre vie où nous nous prononçons ou nous prenons position par rapport au Seigneur et où nous disons « Seigneur, je veux te suivre ». Alors ça peut faire partie d'un processus assez long, d'une maturation spirituelle. Mais il arrive qu'à un moment, on prend position pour le Seigneur et normalement, logiquement, cela doit être suivi, assez rapidement d'ailleurs, par le baptême. Le deuxième point, c'est le biblicisme, l'importance de la Bible. Et en tant qu'Église aussi issue de la réforme protestante, la réforme était essentiellement une redécouverte ou un repositionnement de la foi, de la vie de l'Église par rapport à la Bible. Parce qu'il y a toujours ce danger, cette tendance à s'écarter de la Bible. Et notamment à cette époque, les œuvres pour gagner le salut était chose courante, chose commune. Et Luther a redécouvert ce qui pourtant crève les yeux dans la Bible, et notamment dans l'Épître aux Romains, que le salut est une grâce, qu'il ne dépend pas de nos œuvres, mais qu'il dépend uniquement de la grâce, de l'amour et de ce que Dieu a fait pour nous. Alors j'espère que ce matin vous êtes venus avec votre Bible. J'espère que c'est une des caractéristiques de nos églises, ces chrétiens qui vont à l'église avec leur Bible. Je vais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée dans ma vie quand j'avais peut-être 5 ans. Mais on me l'a racontée il y a quelques années. Quand j'étais petit, nous habitions une rue où, au bout de la rue, il y avait l'église évangélique baptiste où nous nous rendions tous les dimanches. Et tous les dimanches matin, nous allions donc à pied au culte. Et mes parents, ou mon père, ma mère, je ne sais plus, avaient une Bible à la main. Et il y avait derrière la fenêtre d'une maison, dans cette rue, quelqu'un qui nous voyait toujours partir à la même heure, à pied, pour se rendre où, il ne savait pas trop. Alors un jour, il nous a suivis. Il est entré dans cette église et quelque temps après, il s'est converti. Et il me l'a raconté il y a quelques années, donc il était déjà très âgé ce monsieur, et quelque temps après d'ailleurs il mourait, il était assez malade. Et il m'a raconté qu'en fait c'est parce qu'il nous avait vus aller à l'église avec un livre à la main, qu'il s'est demandé ce qui se passait, et c'est comme cela qu'il s'est converti. Alors, je ne sais pas si vous avez été suivi, s'il y a ici quelqu'un qui est entré parce qu'il a suivi, ce serait bien, ce serait formidable. Mais voilà, en tout cas, un beau témoignage de la grâce de Dieu. Le biblicisme, et le troisième point, c'est le crucicentrisme, l'importance de la croix. Et notamment ce verset de la première épître aux Corinthiens que l'apôtre Paul écrit, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Christ crucifié. Les Juifs attendaient un Messie, mais certainement pas un Messie crucifié. Mais il fallait que Jésus meure sur la croix pour le pardon de nos péchés et pour qu'il puisse aussi montrer qu'il a le pouvoir sur la mort et qu'il donne la vie éternelle. Et puis le dernier point, c'est l'engagement. L'engagement du chrétien. Alors Pierre-Yves nous a projeté un joli dessin. Engagez-vous, rengagez-vous, qu'il disait. Vous verrez du pays. Merci Pierre-Yves. Il ne s'agit pas de cet engagement-là, bien sûr, mais j'aimerais développer maintenant ce que nous entendons par l'engagement qu'on peut appeler aussi le militantisme. C'est bientôt les élections, il y a déjà des militants dans les partis politiques. Alors on sait ce que c'est qu'un militant. Un militant utilise son temps pour coller des affiches. Il utilise de son argent pour mettre ne serait-ce que de l'essence, du carburant dans sa voiture pour aller coller ses affiches. Un militant, ça participe aux réunions, aux rencontres de son candidat. Et puis, ça distribue des papiers dans les rues. Voilà ce que c'est qu'un militant, parce que il pense que son candidat est le meilleur et qu'il en est convaincu. Alors, j'aimerais commencer par une interview qui est paru dans le journal Le Monde, le 3 février dernier. Vous savez peut-être qu'il y a maintenant un Conseil national des évangéliques de France, qui est né il y a à peu près 2 ans, et ce Conseil national des évangéliques de France, qui regroupe la plupart des évangéliques, des églises évangéliques en France, a tenu son premier congrès au mois de janvier, le 26 et le 27 janvier, à Paris. La presse s'en est fait l'écho, les médias, pas seulement la presse, et le journal Le Monde a envoyé un journaliste qui a interviewé, je ne sais plus si c'est le président, le directeur ou le secrétaire de cet organisme qu'on appelle le CNEF, hein, Conseil National des Évangéliques de France. Alors je vais vous lire un peu, en partie, quelques extraits de cette interview qu'on peut encore trouver, je pense, dans le journal Le Monde par Internet. Question. Pour la première fois, le Conseil national des évangéliques de France, né il y a 18 mois, organisait une convention jeudi 26 et vendredi 27 janvier. Est-ce le signe d'une église en pleine expansion? Réponse, absolument. C'est une machine qui se met en marche et cette église manifeste un dynamisme incontestable. Elle s'organise, renforce son témoignage commun au-delà des différentes églises qui la composent. Question, quelles sont les raisons de leur succès? Réponse, on peut en dégager 3. D'abord, ils ont bien compris qu'on devenait chrétien pas par héritage, mais par choix. Conversion. La place donnée à l'individu est en totale adéquation avec notre société où c'est le choix individuel qui est au centre. Ensuite, ils utilisent tous les moyens modernes de communication, Internet, mais aussi la musique, la scénographie. Et dans les églises évangéliques, il n'y a pas un orgue, mais une batterie. Alors, on n'a pas de batterie, mais on a un appareil qui, de temps en temps, donne des sons de batterie. Hein, vous l'avez peut-être remarqué tout à l'heure, ou à un autre moment. Ils sont à la page. Ils sont à la page. Je ne sais pas si nous sommes à la page, mais voilà dans la réponse de cette question. Les églises apparaissent comme des assemblées chaleureuses, réconfortantes. Troisième point, il s'agit d'une expression religieuse qui part de l'expérience personnelle au plus près de la réalité des gens. C'est à l'opposé d'une approche doctrinale cérébrale. Et cela séduit en particulier les jeunes. Il y a des jeunes parmi nous ? Oui, j'en vois quelques-uns. Mais aussi, puis il y en a aussi pas mal de l'autre côté de la paroi, mais aussi des gens perdus à la recherche d'une identité. Cette église offre une structuration, une cohérence et une espérance. Les évangéliques ont bien compris qu'en France, ils évoluent dans une société très séculaire où il n'est pas évident d'être religieux et ils parviennent à mettre le message religieux en relation avec les éléments concrets. En cela, ils sont très modernes. Lors des prières, par exemple, ils évoquent la situation des fidèles, la maladie, le chômage, la souffrance sociale, les difficultés psychologiques. Ils accrochent sur les difficultés du quotidien. Pour les évangéliques, l'idée reste qu'être croyant, cela doit se voir. C'est en totale réaction avec la grande pudeur des affaires religieuses en France. J'arrête là cette interview, mais c'est vrai que dans notre pays, on est généralement très discret, très pudique sur la foi. On n'ose pas dire qu'on est chrétien, catholique, protestant, etc. De moins en moins peut-être qu'on a davantage cette liberté aujourd'hui, mais être chrétien, cela devrait se voir, cela devrait se manifester. Alors, nous allons voir un peu comment cela devrait se manifester. Mais je cite encore un autre article maintenant du journal Connecté, qui est le journal du CNEF, qui vient de paraître d'ailleurs, et où le rédacteur en chef, Erwan Kloarek, ça doit être un breton, écrit ceci, « Évangélique, évangéliste ». Vous savez que souvent les journalistes nous appellent non pas des évangéliques, mais des évangélistes, ou les évangélistes américains, voilà. Alors, évangélique, évangéliste, quitte à se faire traiter d'évangéliste, autant l'assumer. Nous sommes un peuple de témoins, un peuple en mission, un peuple qui vit pour les autres et qui doit se donner pour les autres à l'image de Jésus-Christ. Alors, voilà un peu ce qui fait le fondement, la base de notre engagement. Et j'aimerais maintenant vous lire juste un verset dans Romains chapitre 10, versets 9 et 10. C'était ce verset qui a servi à ma conversion. Parce que quand j'avais 16 ans, je voulais bien être chrétien. Je croyais en Dieu, en Jésus, depuis aussi longtemps que je puisse m'en souvenir. Mais je ne voulais pas ni me faire baptiser, je pensais que ça servait à rien, ni témoigner de ma foi en me disant « ça c'est une question personnelle, individuelle, et ça ne regarde que moi ». Et puis, je suis tombé sur ce verset, ou plutôt le Seigneur m'a mis ce verset devant le nez, Romains chapitre 10, versets 9 et 10, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car en croyant du cœur, on parvient à la justice, c'est-à-dire on est déclaré juste, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. » En confessant de la bouche, on parvient au salut. Dire que cela se passe uniquement au niveau du cœur, c'est la moitié du verset, et même c'est une petite partie, puisque c'est en confessant de la bouche. Et comment mieux le confesser qu'en se faisant baptiser, c'est là le moyen que le Seigneur nous a donné, qu'on parvient au salut. Pour être sauvé, il faut donc croire et confesser sa foi, et pas seulement croire dans son cœur. L'évangélisme, ce qui caractérise donc les églises évangéliques, l'évangélisme, est un christianisme de conversion. L'importance de se convertir, de naître de nouveau est constamment là aussi dans l'Écriture pour se donner entièrement au Seigneur. Car le Seigneur nous veut tout entier, pas seulement une partie de nous-mêmes, mais tout entier. Il est important qu'à un moment de notre vie, on lui dise « Seigneur, je me donne tout entièrement à toi, prends-moi et conduis ma vie et fais de ma vie ce que toi tu veux et non pas ce que moi je veux ». Et le baptême, c'est la première confession publique de cette nouvelle naissance. Alors j'aimerais lire maintenant avec vous un texte un peu plus long qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3, vous savez que c'est la série dans ce chapitre 2 et 3 des sept lettres que le Seigneur adresse aux différentes églises, sept églises. Et la dernière de cette église, Apocalypse chapitre 3, verset 14, nous avons une lettre qui est adressée à l'église de Laodicée. Alors, Laodicée, ça se trouverait aujourd'hui, je ne sais pas si cette ville existe encore, en Turquie. Ça forme un triangle avec Hierapolis, Colosse et Laodicée. Et Paul avait écrit une lettre, une épître à l'église de Colosse. Et à la fin de cette épître aux Colosses, il dit, mais faites en sorte que cette lettre soit lue aussi à Laodicée. Et on apprend qu'il avait écrit aussi une lettre à l'église de Laodicée. Mais cette lettre, cette épître, s'est perdue. Alors, nous lisons Apocalypse, chapitre 3, verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. L'ange, c'est le représentant de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu, ou parfois dans certaines traductions, le commencement, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis « je suis riche », je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Et donc du zèle, ou sois fervent, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Quel jugement sévère sur cette église, adressé à ces chrétiens, à cette église de Laodicée. Ces chrétiens vivaient dans une certaine richesse, dans une certaine opulence, qui leur faisait croire qu'ils n'avaient besoin de rien. Un peu comme nous, dans notre monde aujourd'hui occidental, nous vivons dans un certain matérialisme, faisant croire que nous n'avons besoin de rien, si ce n'est que ce que nous offre notre société. Mais cela se répercutait sur la vie spirituelle de ces chrétiens. Ils étaient sans ardeur, sans conviction, sans enthousiasme. Ils se satisfaisaient de leur petite vie bien tranquille et ils ne voulaient surtout pas être dérangés dans leurs habitudes. Je connais tes œuvres. Oui, le Seigneur connaît et il pointe le doigt sur la faiblesse, sur la pauvreté spirituelle de ces chrétiens, alors qu'ils se croyaient riches. Tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant ? La tiédeur spirituelle. Je ne sais pas si vous aimez un café tiède ou une eau tiède. C'est tiédasse, c'est fade, c'est fadasse, c'est... Non, ça ne va pas. Alors plutôt avoir un verre d'eau bien fraîche ou un verre d'eau chaud avec du thé ou du café, mais bien chaud. Hein, mais quand c'est tiède... Ce n'est pas terrible. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Jésus met sur le même plan pauvreté spirituelle et cécité, le fait d'être aveugle, de ne pas voir. Et c'est quand on ne voit pas qu'on se satisfait de ce qu'on a, on manque de vision. Mais le Seigneur, ce qui est extraordinaire dans ce texte, c'est qu'il les aime. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Puissions-nous nous laisser corriger aussi par le Seigneur ce matin, si nous sommes dans cette situation. Et donc du zèle, c'est-à-dire sois fervent, repens-toi, demande pardon à Dieu pour ta pauvreté. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Le Seigneur ne force pas les portes, il n'enfonce pas les portes, mais il frappe à la porte. Et si quelqu'un entend ma voix, entend la voix du Seigneur et ouvre la porte, c'est le contraire des portes de prison. Vous savez, dans les portes de prison, il y a une serrure à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir de l'extérieur, mais on ne peut ni fermer, ni ouvrir de l'intérieur. La porte que le Seigneur envisage ici, la serrure est à l'intérieur de notre cœur. C'est à nous d'ouvrir au Seigneur, mais il est là, qui frappe, c'est lui qui prend l'initiative. Il attend que nous lui ouvrions. Et il quitte son trône glorieux, c'est le Seigneur de gloire qui est présenté dans ce début de l'Apocalypse, pour désirer souper, prendre un repas avec cet homme, cette femme pitoyable, pauvre sur le plan spirituel. Voilà l'amour de Dieu pour nous, c'est-à-dire qu'il nous tend la main, c'est-à-dire qu'il nous ouvre une perspective de vie extraordinaire avec lui. Oui, le Seigneur désire que nous soyons des chrétiens engagés pour lui, avec lui, engagés dans son Église. Un des premiers baptistes, Gérard Honken, qui est à l'origine de beaucoup d'églises baptistes en Allemagne, avec six compagnons, il a constitué le noyau de la première église baptiste allemande en 1834. Alors, il y avait bien sûr des églises baptistes deux siècles auparavant, mais pas en France et pas non plus en Allemagne. Il a été d'ailleurs présent à la fondation de l'église baptiste de Mulhouse. Il a dit que chaque baptiste, chaque chrétien, il n'y a pas que les baptistes, hein, chaque chrétien doit être un missionnaire. Alors il a dit en allemand, Jeder Baptist ein Missionar. Chaque baptiste, soit chaque chrétien doit être un missionnaire. Parce que être bouillant, être engagé, c'est être militant. Un peu comme on milite dans un parti, nous militons pour Jésus-Christ. C'est donner de son temps, donner de son argent, donner de son énergie. La foi vient de ce qu'on entend, dit l'apôtre Paul aux Romains. Et l'apôtre Pierre dit, soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Cela implique la parole, le témoignage de la parole. Et il me revient un cantique que je chantais dans mon enfance, mais qu'on a un petit peu abandonné parce qu'il est dans un vieux recueil qui s'appelait autrefois « Les ailes de la foi ». C'est très joli, « Les ailes de la foi », comme si nos chants flottaient un peu au-dessus de nous. Et il dit ceci, alors je ne vais pas vous le chanter, autrement vous sortiriez tous. « Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger. Il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme ? » Et la troisième strophe dit, « Ne peut-il pas compter sur nous ? Ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus ? Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme ? » Ça, c'est l'évangélisation, ou tout simplement le témoignage personnel. L'Épître aux Hébreux nous recommande de ne pas abandonner notre assemblée, ce qui veut dire qu'il est important d'être fidèle aux réunions de l'Église, être là, présent pour être encouragé, pour être stimulé, mais aussi pour avoir des nouvelles, pour pouvoir aussi prier, pour pouvoir aussi participer à la vie de l'Église. Et le psaume 133, qui célèbre la beauté des retrouvailles des Israélites à Jérusalem lors des grandes fêtes de ce pays, dit qu'il est beau, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. C'est là qu'est la bénédiction. Oui, c'est là qu'est la bénédiction. Alors j'espère que vous êtes, que vous serez bénis ce matin, c'est-à-dire que vous aurez reçu de Dieu des paroles qui vous permettront d'avancer dans votre vie spirituelle et qui permettront au Seigneur aussi de nous utiliser dans notre vie de tous les jours. Oui, qu'il est beau, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. Cependant, je mettrai quand même un bémol. Je crois que certains chrétiens sont trop militants, trop engagés, au point de négliger leur vie familiale ou même leur équilibre personnel. Trop de réunions tuent les réunions, comme disait quelqu'un, trop d'impôts tuent l'impôt. Cela ne veut pas dire qu'il faut être toujours dans l'Église. Nous avons d'autres responsabilités aussi. Un père de famille ou une mère de famille qui serait chaque soir à une réunion de l'Église et qui négligerait d'être avec ses enfants, je crois qu'il serait coupable par rapport au Seigneur. Tout cela est une question d'équilibre, mais notre responsabilité va aussi par rapport dans le domaine de notre famille, des enfants. Et il m'est revenu, en préparant ce message, deux versets. Marc, chapitre 7, alors verset 11, mais j'ai écrit aussi le chiffre 5, alors je ne sais pas trop, mais je crois que c'est 7, 11. Jésus s'adresse aux pharisiens et aux docteurs de la loi, et il les reprend, parce que ces pharisiens disait que si on donne de l'argent au temple, en négligeant sa famille, c'est-à-dire en ne pourvoyant pas aux besoins de ses vieux parents, c'était bien parce qu'on l'avait donné au Seigneur, parce qu'on l'avait donné au temple. Mais Jésus dit ceci, « Mais vous, que dites-vous ? Si un homme dit à son père ou à sa mère, « La part de mes biens avec laquelle j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire offrande à Dieu », alors vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Et puis l'apôtre Paul, dans la première à Timothée, chapitre 5, verset 8, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » Des paroles aussi très dures, qui montrent que notre responsabilité va d'abord auprès de ceux qui sont âgés, des membres de notre famille ou de nos enfants, etc. Alors, s'engager dans l'Église, bien sûr que oui, c'est bien, bien sûr, mais tout cela est une question d'équilibre. Et puis, en dernier lieu, nous avons tout simplement besoin de refléter le Christ dans notre vie. Marchez, dit Paul, d'une manière digne de la vocation, de l'appel qui vous a été adressé. Et l'apôtre Paul, dans Éphésiens, chapitre 4, nous demande de rejeter le mensonge, de ne pas persister dans la colère, de ne pas donner accès au diable, de ne pas voler, de ne pas prononcer de paroles malsaines, de ne pas attrister le Saint-Esprit, de ne pas être amer, médisant, colérique, calomniateur, c'est-à-dire de dire du mal des autres, d'être bon les uns envers les autres, de pardonner. Et Jésus ira même jusqu'à dire d'aimer ses ennemis. D'être, dit Paul, les imitateurs de Dieu et de marcher dans l'amour. Voilà sans doute le meilleur, le plus grand témoignage que nous puissions rendre, que ce soit dans notre assemblée ou dans notre famille ou dans notre travail, dans notre voisinage, dans notre entourage. Je ne vous apprendrai rien en disant qu'un chrétien est quelqu'un qui est né deux fois. Une fois lors de sa date de naissance. On n'est pas né en dehors de sa date de naissance, même si on ne la connaît pas. Et une deuxième fois lors de sa conversion, c'est-à-dire de cette prise de position. Ce moment où on a dit au Seigneur, je me donne à toi complètement. Comme le papillon. Le papillon, c'est un insecte né deux fois. Il est né une fois chenille et il est né une fois papillon. Alors la métamorphose transforme complètement l'insecte. Chenille, il rampe sur des feuilles de salade et des feuilles de choux. Papillon, il change d'univers, c'est le royaume des fleurs. Il vole de fleur en fleur. Et puis, en ce qui me concerne, je préfère regarder un papillon que de regarder une chenille. Je ne sais pas pour vous, les goûts et les couleurs, ça change selon les personnes, mais il me semble qu'on s'émerveille rarement, enfin peut-être qu'on devrait, je ne sais pas, devant une chenille, mais on s'émerveille devant un papillon. Eh bien, il en est de même du chrétien, nous sommes nés deux fois. Et cette métamorphose intérieure qu'a provoqué le Saint-Esprit dans notre vie nous change dans nos dispositions les plus profondes. Si quelqu'un est en Christ, écrit Paul, deuxième aux Corinthiens, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors comment ne pas être chrétien sans être un missionnaire, sans être engagé dans la vie de l'Église, dans le témoignage personnel, dans notre vie de tous les jours par ce parfum de Christ que nous voulons répandre autour de nous. Mais comme dira Paul aussi, dans notre circonstance, qui est suffisant pour ces choses? Eh bien, c'est l'occasion aussi de prier, de demander à Dieu de nous aider pour que nous puissions rendre témoignage de son amour pour nous et de la puissance de son esprit en nous. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, tu veux faire de nous des personnes que tu utilises dans la vie de tous les jours, mais aussi avec nos frères et nos sœurs, pour que nous puissions nous encourager les uns les autres, et que nous soyons tes envoyés aussi, pour que tu agisses dans notre monde. Aide-nous encore, Seigneur, à être devant toi, et que nous acceptions quand tu nous reprends, quand tu mets devant nous aussi le choix de la vie avec toi ou de la vie sans toi. Parce que tu n'acceptes pas de demi-mesure. Aide-nous, Seigneur, à t'être fidèle et à marcher avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Et j'ai oublié une autre citation que je voulais vous lire. Elle m'a échappé. Voilà. C'est une citation de Ruben Sayens, qui est un des personnages importants de nos milieux évangéliques. Il a écrit ceci. Les églises autonomes, un peu comme nous sommes, des églises autonomes, sont condamnées à vaincre ou à périr. Aucune autre perpétuité ne leur est promise que celle du Saint-Esprit vivant au milieu d'elles. Vaincre ou périr. Merci.